La mobilité est un préalable indispensable à de nouveaux aspects de la vie courante. Alors aller au travail ou chez le médecin, faire des courses, participer à des activités, se rendre chez des amis ou des parents, ou même aller à des obsèques. Or, nombre de personnes rencontrées au Secours catholique, notamment en milieu rural, n'ont pas les moyens de se déplacer. Ils se retrouvent isolés avec de graves conséquences économiques, sociales et psychologiques. Alors pour contrer cette forme de pauvreté, le Secours catholique a mis en place de nombreuses actions solidaires et même une enquête que je vous propose d'écouter, l'interview de la présidente du Secours catholique Pyrénées-Gascogne qui nous parle d'une étude que le Secours catholique a menée sur l'ensemble de notre pays. Cette étude a été présentée à quelques membres, c'était la semaine dernière. On écoute la présidente du Secours catholique Pyrénées-Gascogne.
Alors c'est Madame Diliani qui est présidente du Secours catholique Pyrénées-Gascogne, donc Auch, Tarbes, sur les deux départements, à cheval sur le département.
Vous avez présenté, vous avez proposé aujourd'hui aux délégations du Gers et des Hautes-Pyrénées de faire une expérience unique, de se retrouver dans ce quartier, dans ce beau quartier de Bagnères-de-Bigorre, Clairvallon, dans cette belle salle de quartier. Une expérience un peu inédite. Vous avez proposé aux gens de venir, mais pas avec leur véhicule, avec des moyens de locomotion, on va dire, de collectif.
Voilà, offert par les circuits habituels des routes des Pyrénées. Voilà, donc ils ont dû choisir leur mode de transport, leur horaire, pour arriver ici aux environs de 9h30-10h. Donc c'était un exploit pour certains. Certains sont partis assez tôt de chez eux.
Oui, parce qu'on avait des gens qui venaient de Trie-sur-Baïse, d'autres du Gers, d'autres de l'Almezan. C'est pas... Bagnères est un peu loin.
Voilà, le Gers sont venus en voiture, je peux vous l'assurer.
ils ont partagé un peu leur expérience de ce qu'ils ont vécu pour venir. Certains ont bien, j'ai bien compris, ont pris leur véhicule au moins de chez eux jusqu'au point de transport, là où ils ont pris leur bus. Puis ensuite, ils sont arrivés jusqu'à Bagnères. Et de Bagnères, ils sont venus à pied, donc depuis la gare de Bagnères jusqu'à ce quartier, 2 ou 3 kilomètres, je crois, à pied.
Oui, mais en début de matinée, c'était un choix, en fait, de venir à pied ou pas, parce qu'il y avait une navette mise en place par le Secours catholique qui allait les chercher en fonction de leur horaire. Mais certains ont choisi de venir à pied, donc très bien. Ils sont partis tôt, donc ils sont arrivés tôt, ils avaient le temps de venir à pied.
Mais c'était quand même une belle expérience.
C'est une très belle expérience. En plus, c'est mettre, je vais dire, en situation ce que vivent les gens. La plupart de ceux qui sont ici, ce sont des gens qui ont des voitures, qui reçoivent des personnes en précarité ou non, qui n'ont pas justement ce type de transport, qui cherchent du travail, qu'on lève les bras au ciel en disant « mais comment on va faire pour trouver la possibilité d'aller là-bas ?» Et donc, ça les met vraiment en situation et ça, au niveau des accueils, ça portera ses fruits aussi parce qu'il y aura de l'empathie par rapport aux personnes qui viennent nous voir en disant « oui, franchement, c'est un problème de traverser le département ».
On va prendre quelques minutes pour parler un peu du rapport que vous avez présenté. Quelque chose moi, qui m'a interpellé, c'est 80% des microcrédits que vous aidez sont consacrés aux moyens de transport, à la voiture.
Voilà, les 80%, c'est le phénomène national. Mais nous, on est à 96, voire 97%
de délégation Pyrénées-Gascogne.
Voilà, Pyrénées-Gascogne. Voilà. Donc, c'est quasiment ça que l'on fait. Par contre, ce que l'on a arrêté, c'était le microcrédit par rapport à l'achat de caravanes pour les personnes nomades. Parce qu'on faisait ça à un certain moment et on a dû arrêter parce que c'était pas... Voilà, ça se passait pas très bien, on va dire. D'accord. Un microcrédit, ça se rembourse. Donc, voilà.
On aura compris. Donc aujourd'hui, vous aidez les gens à acquérir un véhicule ou malheureusement, s'ils tombent en panne et que la panne est un peu grave, où ils font, parce que les réparations aujourd'hui, ça coûte très cher.
Voilà, ça coûte très cher, étant donné déjà le coût du carburant qui vient déjà impacter leur budget. Quelquefois, une réparation de 300 euros, on ne sait pas les sortir sur le mois, ce qui veut dire qu'on ne sait pas aller travailler, ce qui veut dire qu'on ne sait pas quoi faire. En fait, le garagiste ne va pas vous réparer en attendant de vous payer. S'il y a une liste trop longue de personnes dans cette situation, donc il ne prend pas de risque. Et du coup, le microcrédit, c'est vraiment quelque chose qui répond à leurs demandes.
Autre chose qui m'a interpellé, vous avez dit au début de votre entretien, ce qu'ils vivaient aujourd'hui dans le rural, ce qu'on vivait avant, ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre avant et aujourd'hui?
Mais en fait, ils étaient en regroupement familial. En fait, plusieurs générations vivaient sous le même toit. Donc, il y avait toujours une solution de dépannage pour conduire quelqu'un chez le médecin, l'infirmière. Bon. À l'heure actuelle, les populations rurales sont bientôt plus peuplées maintenant de personnes qui viennent de la ville ou d'ailleurs, on va dire, d'autres ethnies qui y occupent, et du coup, ils ne sont pas déjà connus du village, donc il n'y a pas cette référence, il n'y a pas cette confiance. Du coup, on ne peut pas compter sur son voisinage pour assurer le transport.
C'est cette expression de dire que ce sont pour certains des villages dortoirs, est-ce que c'est quelque chose qui est une réalité ?
Pas vraiment pour nous. Les villages dortoirs, ça se situe plutôt autour des grandes villes, dans la périphérie des grandes villes. Quand on parle de ruralité ou d'hyper-ruralité, c'est vraiment profond. La France agricole, la France productive de fruits, de légumes, de vignes, voilà, c'est surtout ça l'hyper-ruralité. Hein, pour nous, on a beaucoup de ruraux qui sortent du milieu agricole. Très peu ont travaillé dans une administration. Ça commence à venir parce que nos retraités viennent plus jeunes, donc forcément, mais les personnes de moyenne d'âge que l'on a dans nos accueils tournent au-delà de 70 ans. Ce sont des personnes qui ont vécu la ruralité ou enfants de ruraux qui ont gardé la même habitude de vie.
Alors, ce rapport a été présenté avec quelques solutions, quelques exemples qui se font dans des départements français, des exemples très intéressants. Est-ce que ces exemples, vous avez essayé de les vendre aux collectivités ici ?
Pas pour le moment. C'est pas franchement. C'est la suite justement du plaidoyer que l'on est en train d'entreprendre, qui va orienter vers ces solutions. Et ces solutions sont bonnes dans la mesure où tous les critères sont rejoints. D'une région à l'autre, on n'a pas les mêmes possibilités, ni le même accueil de solutions, ni le même retour par rapport à ça.
Quelqu'un me disait qu'il était dommage qu'il n'y ait pas assez de communication entre les communautés de communes, entre elles. Peut-être que s'ils ont fait des expériences, des retours d'expérience entre eux, ou voir l'agglo du CATLP ici pour le département des Hautes-Pyrénées.
Ben, c'est caractéristique au monde rural. Hein, on a l'habitude d'être sur son territoire et on n'a pas encore l'amplitude à aller voir à côté, partager. Ça vient, hein. Il y a certaines communautés de communes qui se sont bien élargies, mais pas encore toutes. Je ne sais pas si mon collègue...
Vous avez été, vous, surpris de la réponse et de cette étude ? Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a surpris ou non ?
C'est quelque chose... Non, parce qu'on est dedans quand même depuis un moment, donc on s'attendait un peu au retour, surtout qu'on a quand même analysé avec nos différents animateurs, et voilà, on savait à peu près ce qu'on allait avoir comme retour, mais ça prouve qu'on doit porter cette connaissance pour que, eh bien, on ait de plus en plus de personnes qui réagissent à ça, quoi.
Ce que j'ai pu m'apercevoir avec les interviews que j'ai faites, c'est que entre un point A et jusqu'à Bagnères, mais de leur domicile jusqu'à ce point A de départ, là c'était plus compliqué.
Bien sûr, bah oui, parce que les transports en commun ne vont pas aller jusque dans la ruralité profonde, donc il faut rejoindre un point un petit peu plus actif pour avoir un bus qui les amène quelque part. Ne serait-ce que le projet de partir de chez soi, aller à Tarbes, et de Tarbes, on reprend un bus pour venir ici. Bon, c'est vrai que les liaisons ne sont pas fluides.
Est-ce que vous comprenez quand même qu'on ne peut pas faire du personnel,
hein ? Voilà, c'est ça.
Donc, à un moment, il faut pouvoir aller de... On aperçoit quand même que l'État essaye d'encourager le retour en ville et de réinvestir les centres-villes. Est-ce que c'est quelque chose, peut-être quand on habite dans le rural, qu'on n'a pas trop envie ? Beaucoup de gens, malheureusement, cessent d'habiter dans le rural quand ils sont trop âgés parce qu'ils n'ont plus moyen de transport, et certains partent en ville bon gré mal gré.
Pas si sûr que ça. Les ruraux ont de la difficulté d'aller en ville finir leur jour. Ou alors c'est les enfants qui les y ont portés par rapport à des EHPAD ou par rapport à la proximité des enfants. Mais ils aiment rester là où ils ont vécu, ils sont nés. Oui. L'exode vers les villes, moi j'ai de la difficulté de le percevoir.
D'accord.
Oui, encore plus moi qui suis dans le Gers. Oui, c'est pas franchement. On n'en voit pas les gens à Auch, par exemple. C'est pas, y a rien à Auch. Enfin, c'est pas le sujet, mais en fait, non. Moi, j'ai pas cette vision-là d'exode vraiment Alors, c'est peut-être vrai pour, disons, les cités dortoirs ou juste avant la cité dortoir où on les passe de l'autre côté par rapport à du travail, mais pas par rapport à la vieillesse.
D'accord. Vous qui êtes dans le Gers, est-ce qu'il y a une différence, vous trouvez, entre le Gers et le département des Hautes-Pyrénées ?
Énorme.
Ah bon ?
Oui.
Alors, partagez-nous, parce que...
Oui, bon, je ne sais pas si c'est à mettre dans le rapport. On n'a pas du tout le même profil de ruralité, tout au moins de comportement rural. C'est pas pareil. On a ici quand même un petit peu de regard, d'intérêt sur ce qui se passe.
Ici, c'est-à-dire les Hautes-Pyrénées ?
Même des petites équipes, elles ont quand même le souci des autres, le regard des autres. Dans le Gers, c'est beaucoup plus compliqué.
Moi, j'aurais dit l'inverse, vous voyez.
Non, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, oui, nos équipes sont bien plus fermées qu'ici en Haute-Pyrénées.
Alors, on disait que les élus ne discutaient pas entre eux. Est-ce que les délégations discutent entre elles ? Est-ce que vous avez aussi cette difficulté ?
Et
les petites antennes ?
Les petites antennes, on les force à discuter entre elles. Hein, on essaye tout au moins.
Avec des animateurs efficaces.
Voilà, mais on a des journées de territoire qui les regroupent, bon, des jours comme aujourd'hui, ouais. Et on a d'autres, des rencontres de bénévoles qui les... En fait, ce n'est pas une obligation, mais nous, le but, c'est de les faire se rencontrer pour un partage d'expérience.
Alors, ce rapport, il a été présenté succinctement aujourd'hui. Que va-t-il devenir ?
Bonne question. Je crois qu'il faut déjà s'en emparer, l'étudier et puis faire en fonction de nos possibilités et des retours que l'on a par rapport aux gens des équipes. Mais là, on compte sur nos animateurs très investis qui vont aller glaner, ils ferment les yeux, qui vont aller glaner des informations et des profils à utiliser pour que nos bénévoles soient bien impliqués dedans.
On a entendu les mots santé, travail, beaucoup. Hein. Oui. Il y a le projet d'un hôpital unique pour tout le département des Hautes-Pyrénées, avec dans un village, entre deux grandes villes. Est-ce que c'est compliqué ?
C'est compliqué, mais oui, tout centralisé, c'est quand même compliqué. Hein. Oui.
Quand on voit aujourd'hui l'expérience d'être venu ici, dans ce quartier, on imagine qu'on a bien compris que, bon, entre deux grandes villes, Lourdes, Bagnères, Tarbes, Bagnères, ça va, mais c'est de venir depuis chez soi jusqu'à ce lieu pour arriver qui est compliqué.
Surtout que, en fait, la sécurité sociale limite beaucoup la prise en charge des taxis, des VSL. Donc, il faut compter justement sur quelqu'un qui puisse nous y amener. Hein, ça, c'est un gros problème. Le VSL n'est plus remboursé ou alors vraiment sous certaines conditions qui deviennent de plus en plus drastiques. Et bon, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, de nous avoir accordé ces quelques minutes et félicitations pour cette journée.
Merci à vous d'avoir couvert cet événement.